On se tutoie sur Nostalgie. Jean-Luc Reichmann.
Pour l'heure, ça va être un petit peu ta pub avant la pub, parce qu'il y a quand même une actualité, somme toute, assez débordante. Tu m'étonneras toujours, passé 80 ans, t'as toujours envie, comme on disait, l'envie d'avoir envie. Oui. Et c'est pour ça que j'ai sélectionné ce titre qui te vint, qui nous vint quand à ravir, ton ami Johnny Hallyday. On va parler effectivement de toute ton actualité maintenant.
Sur Nostalgie, on se tutoie. Ta pub avant la pub.
Ta pub avant la pub, Michel, alors là, c'est ta pub, je ne comprends pas comment tu fais, cette énergie débordante. Il y a un bouquin avec le temps, alors toute nouvelle autobiographie, des souvenirs par millions, c'est chez Albin Michel, avec le temps va tout s'en va, mais toi, il n'y a rien qui s'en va. À chaque fois que je te parle de quelque chose, une petite brindille de souvenirs, bim bam boum, t'y vas, et ça c'est clair, et tu déroules la pelote de laine. Parle-nous de ce avec le temps, t'en avais besoin.
Oui. Ouais. Oui, parce que tous les jours, pratiquement tous les jours, on me demande alors, ça va mieux le cœur, tout ça, Michel ?
Oui.
Et alors, comment vous faites ? Comment vous faites pour être encore là ? C'est pas possible, vous avez 83 ans. Et vous avez eu deux opérations du cœur, vous êtes là depuis des années, comment vous avez fait ?
Oui.
Et à force de me poser la question, je me suis dit, si je me posais la question, moi, et j'ai essayé avec une préface de Nathan Devers, qui est un écrivain très talentueux,
oui.
Qui est un jeune, il a fait la préface, on s'est rencontrés. Je l'avais engagé pour parler de livres pendant deux saisons à Vivement Dimanche. On a sympathisé avec lui. 25 ans, professeur agrégé, normalien, auteur, prof de philosophie, bon, le contraire de moi.
Oui.
On a sympathisé et il m'a beaucoup interrogé sur ma carrière. Il m'a dit, pourquoi t'écris pas ça ?
C'est-à-dire, c'est sur des anecdotes, sur des rencontres qu'on ne connaissait pas ?
J'ai classé ça par 4 ou 5 chapitres. D'abord, qu'est-ce que c'est que la célébrité ?
Alors vas-y, tu as répondu et on peut répondre à quoi ?
Et comment on fait pour se faire connaître ?
D'accord, alors qu'est-ce que la célébrité a aujourd'hui ?
Alors la célébrité venue de la télévision, c'était très violent. Quand on a 22 ans dans les années 64 et que subitement les gens vous reconnaissent dans la rue...
Mais c'est la parallèle avec la télé-réalité, excuse-moi de te couper, et c'est la parallèle également avec les réseaux sociaux.
Oui, très violent.
Ouais.
Même au début, les gens ne connaissent pas notre nom mais notre visage, donc il faut s'habituer.
Bien sûr.
Il faut savoir qu'on n'est pas fait pour ça, on n'est pas fait pour être reconnu, on n'est pas fait pour avoir un visage que tous les Français connaissent. Donc il faut s'y habituer. Et ensuite faire très très gaffe. D'abord, la popularité et la célébrité n'ont rien à voir. C'est-à-dire, on peut être populaire et pas très aimé.
Oui.
Hein? Et, c'est-à-dire que.
Et on peut être célèbre aussi. Et, voilà. Oui, bien sûr. Ça marche dans les deux sens.
Je cite deux exemples. Belmondo, quand je déjeunais avec Jean-Paul. Les gens faisaient, eh bébé, ça va lui taper sur l'épaule, il faisait une photo, il signait, il discutait. Delon n'approchait pas. Annie Girardot, bonjour Annie Girardot, elle était là, elle prenait un café. Catherine Deneuve, on l'approche pas. C'est-à-dire, c'est pas la même chose.
Hein. Ouais.
Et donc,
entre célébrité et popularité.
Ça n'a rien à voir.
C'est intéressant.
Oui, j'explique ce que c'est quand on a 22 ans, tout ça. Et puis, comment on se fait remarquer? Alors, j'explique, quand on est inconnu, moi j'avais trouvé un truc en disant, il faut d'abord qu'on connaisse ma tête.
Ouais.
Ensuite ma voix, puis ensuite qu'on mette le vrai nom sous le vrai visage.
Oui.
Pas qu'on dise pas, bonjour Maurice, Maurice.
Oui. Chevalier.
Becker, Sabatier, non.
Oui. Bon.
Et
pour ça, ça fait quoi
hein? Oh là là. Pour ça, j'avais remarqué que on faisait des commentateurs cabine. Quand on n'était pas célèbre, on faisait des commentateurs off.
Ouais.
C'est-à-dire, on commentait au journal télévisé les sujets filmés.
Bien sûr.
Alors on disait, Drucker, t'es en cabine aujourd'hui. En cabine, ça voulait dire qu'on ne te voit pas. Et quand j'étais même en direct, sur les terrains de foot, je m'arrangeais pour qu'on cite mon nom au début et à la fin. Quelqu'un dit, nous allons rejoindre maintenant...
T'étais quand même carriériste, alors tu leur disais, tu peux me dire mon nom de famille ?
Non, c'est pas ça, je faisais en sorte avec Vendroux,
oui.
Qui était avec moi à l'époque.
Jacques Vendroux.
Jacques Vendroux, c'est le petit neveu du général, qui était un cancre incroyable, donc on était deux cancres, on se marrait.
Oui.
Et on se disait... si on peut être, on nous citait deux fois par exemple.
Oui.
Nous allons rejoindre maintenant Michel Drucker qui est au Parc des Princes.
Oui.
Et on faisait mine de ne pas entendre.
Oui.
Alors Michel Drucker, deux citations.
Extraordinaire. Et puis après, quel filou.
Attends, et après.
Je crois pas, j'ai jamais entendu ça de ma bouche.
J'ai écrit ça, mais c'est ça. Et si en plus, merci Michel Drucker, là ça fait trois citations.
C'était extraordinaire. Alors ça, c'est la première chose que tu dis dans ton livre. Tu disais qu'il y avait cinq choses fortes. C'est quoi les autres en parsemant ton bouquin avec le temps?
Alors le visage, mettre le bon nom sous le vrai visage.
Ouais.
Et être là tout le temps pour qu'on s'habitue. Avec Jacques Vendon, on s'était dit, c'est ce qu'on va faire.
Oui.
On était rue Cognacq-Jay, au 8e étage, c'était l'étape de la direction.
Mm-hmm.
On va rentrer, on va fermer ce trompée de porte.
Oui.
Conseil d'administration, tout l'état-major, les grands patrons de la télé sont là.
Oui.
Et on se trompe de... On arrivait avec un plateau avec des cafés, on frappait. Oh, excusez-nous. Et là, avec Jacques, on dit, tu comptes 5 secondes. Excusez-nous. Et pendant les 5 secondes,
mais non.
On regardait... pour qu'ils aient le temps de nous photographier.
Tu as fait ça?
Bien sûr.
Mais non.
Et comme j'étais là tout le temps, 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 tout le temps.
Oui.
Ils ont fini par se...
C'est le petit Drucker.
C'est ça. Mais Bouvard a fait mieux. Je l'écris dans les Bouvard. Il était stagiaire à 16 ans au Figaro.
Oui.
Il distribuait le courrier. Et le patron du Figaro, Jean-François Brisson, Bouvard avait remarqué qu'il allait soulager sa vessie après la conférence de rédaction tous les jours à 11h.
Oui.
Qu'est-ce qu'a fait Bouvard?
Oui.
Il s'est dit, je vais y aller tous les jours aussi.
C'est fantastique.
Alors, allé pendant des mois et des mois, t'imagines, Bouvard,
la taille,
la position verticale.
Oui, oui.
Et à un moment donné, bah, évidemment, le patron, je vous connais, vous.
C'est fantastique.
Je vous connais. Et Bouvard, qui avait peur de rien, lui dit, bah, vous savez, monsieur le président, j'ai remarqué que vous alliez aux toilettes à 11h après la conférence le jour. Ça fait 3 mois que je viens tous les jours en espérant que vous allez me rire. Tu sais ce qu'il fait?
Vas-y.
Le patron dit, restez là, quel est votre nom, Philippe Bouvard, vous êtes au service du courrier.
Oui.
Il a appelé la DRH, il a dit, il y a un gars qui s'appelle Bouvard, il a 14 ans,
oui.
Vous l'engagez, c'est un journaliste.
Ça c'est quand même fantastique. Voilà, ouais. Ce sont les petites histoires de Michel Drucker, ouais. Si vous venez de nous rejoindre.
Mais, et puis aussi avoir la chance.
Qu'est-ce que... Oui, ah oui, il y a le coup de bol aussi.
Il y a le coup de bol et puis ouvrir une porte que tu n'aurais pas dû ouvrir.
Oui, mais voilà. Ça tu la faisais exprès quand même.
Ah non, mais moi je restais jour et nuit pour avoir les journaux gratuitement.
Mm-hmm.
Moi j'étais là à 6h du matin et je terminais avec les pompiers vers 1h du matin. Et là...
T'avais soif d'infos.
Le soir il n'y avait personne.
Oui.
Et un jour je vois la lumière, filet de lumière sous la porte du PDG. Je dis, il est minuit.
Oui.
Voilà.
Oui.
Et là j'ouvre, j'aurais pas dû ouvrir la porte.
Oui.
Et je vois le PDG de l'époque,
mm-hmm.
Assis dans les positions que t'imagines,
mm-hmm.
avec à cheval sur lui... une journaliste très célèbre, la jupe relevée.
Mais non.
Et sur un siège pivotant. Donc, ils ont pivoté, ce qui fait que je les ai eus de face tous les deux. Ah, que tu veuilles ou non, ça crée des liens.
Mais oui. Mais ça crée des liens. Et là, regardez comme il est filou, ce Drucker. Mais je ne le crois pas. C'est Avec le temps, son bouquin, chez Albin Michel. Donc ça, c'est les premières phases de la popularité. Qu'est-ce qu'il y a encore dans ton bouquin avec toutes ces années?
J'habitais Place Clichy.
Oui.
Dans un petit appartement.
Ah oui, alors ça, tu l'as raconté, c'est d'une histoire de fou. Ça servait de garçonnière à tout le monde.
Alors, à la rédaction, tous les copains, moi j'étais le plus jeune,
oui.
ont su que j'habitais seul Place Clichy.
À l'époque où il y avait Léon Zitrone.
Pas avec maman Rue Sarrazade.
Non, non, mais Léon Zitrone habitait Place
Clichy. Léon était mon voisin.
Oui, c'est ça.
De ma chambre, je le voyais dîner.
Oui.
Et les copains m'ont dit, dis donc, t'es une garçonnière, tu vis tout seul, tu pourrais pas me passer...
Et là, il y a tout le métier qui est passé
chez
toi. Pas
tout le métier, mais en tout cas, une grande partie de la rédac m'a demandé mes clés pour le 5 à 7. Au point que moi, j'avais même plus la place pour moi. Et un jour, à la fin de la conférence, il y a le grand patron.
Oui.
Il dit, Drucker, après la conférence, je vais vous parler.
Oui.
Il dit, qu'est-ce qu'il va lui dire?
Oui.
Drucker, j'ai su que, le grand patron,
oui.
j'ai su que vous aviez, pour moi, ce sera le vendredi 17h.
Je ne le crois pas.
Oui, monsieur le directeur. Authentique, alors bien entendu, à chaque fois que j'raconte ça, je demande des noms.
Oui.
Père leur âme, ils sont tous morts.
Donc, tant mieux, tout va bien de ce côté-là. Tu m'épateras réellement toujours. On continue avec ce bouquin, donc il y a des anecdotes de dingue. Ton ami, évidemment, Johnny, tous tes amis qui sont là. Johnny, évidemment, fait partie intégrante de ta vie.
Oui.
Au quotidien.
D'abord, Johnny a connu Dany, ma femme, avant moi. Johnny, je l'ai connu à ses tout débuts en 64-65.
Mm-hmm.
Je faisais l'émission à Douai, Tilt Magazine.
Oui, c'est son dont on a parlé. Ouais.
Et il était là. Et tout le monde oublie que Johnny, en 66, son couple battait de l'aile avec Sylvie. Il a fait une cure de sommeil et une tentative de suicide en Suisse. Rien ne marchait pour Johnny. Et puis, il revient dans Tilt Magazine avec le succès de Los Bravos,
mm-hmm.
qui s'appelait en français Noir, c'est noir.
Ouais.
Et là, c'est son retour. Il casse tout, ça deviendra un tube gigantesque. Et à la fin de l'émission, c'était à Douai, il avait une Ferrari. Il dit que c'était une Lamborghini, mais non, je dis que c'était une Ferrari.
Mm-hmm.
Et on rentre à 2h du matin tous les deux.
De Douai.
De Douai. Et là, 180, 190, 200.
Oui.
Et lui, toujours mutique, très, très muet.
Oui.
Il se retourne vers moi, comme ça,
mm-hmm.
En me regardant. Alors je mets le compteur, dis-moi, est-ce que tu crois que Noir, c'est noir, ça va me relancer?
Los Bravos.
Los Bravos, c'est noir, ouais. c'est noir. Et, ouais. et tu dis, écoute Johnny, à la vitesse à laquelle on vole, on ne saura jamais. 220.
Ouais.
Oh, mais j'ai des souvenirs avec Johnny. Oh là là.
Ouais. Alors pour les auditeurs qui ne se remémorent pas, évidemment, Los Bravos, Black is Black sur Nostalgie, on va le retrouver avec un grand plaisir. Mais je ne savais pas qu'il avait fait quand même une tentative de suicide parce que ça ne marchait pas.
Non, ça ne marchait pas.
Ouais, d'accord. Et tu étais à ses côtés à cette époque-là?
C'est là où je l'ai connu, à Douai, où il était démoralisé. On avait la même loge.
Oui.
Et il était démoralisé parce que ça ne marchait pas. Et puis, il était considéré comme le mauvais garçon qui se roule par terre. On n'est pas du tout mesuré que c'était une immense star.
Pour les auditeurs qui n'ont pas la référence, Los Bravos, c'est ça. Et repris par Johnny Hallyday. C'est bel et bien la route du week-end sur Nostalgie avec Michel Drucker. Je suis content de te recevoir, Michel. Mimi, ça va?
Los Bravos, on l'écoute rarement. Hein.
Eh ben ouais, eh ben c'est sur Nostalgie et nulle part ailleurs, monsieur. Et alors? T'entends ça?
Ah, c'est vachement bien.
Eh ben évidemment que c'est bien.
Mais la nostalgie, c'est important, la nostalgie.
On en
parle. Ça veut dire la mémoire.
Hein. Ben oui. Et toi, toi, on a de la mémoire.
Ouais.
Version originale, s'il vous plaît, monsieur Drucker.
Black is black. I want my baby back.
On roule à la cool. Avec Jean-Luc. Top départ pour le week-end.
On se tutoie.
Avec Jean-Luc Reichmann sur Nostalgie.
Le souvenir sur Nostalgie, ça c'est de la bonne nostalgie positive ou pas, Michel?
Ah oui, alors.
Ouais.
Mais moi j'aime bien, c'est pour ça que dans Vivement Dimanche, il y a toujours au moins un chapitre sur la nostalgie où je rends hommage aux anciens.
Oui, bien sûr.
J'ai fait ça avec Bourville cette année, j'ai fait ça. Mm-hmm. Je vais faire ça avec Villeray à la rentrée, je l'ai fait avec Dino Ventura, je l'ai fait avec tous ces gens que j'ai beaucoup aimés. Là, on va faire Bachelet bientôt, parce que c'est important de...
C'est hyper important, c'est hyper
parce que
de se rappeler quand même.
Si je le fais pas moi, qui va le faire, quoi?
Personne. On continue évidemment avec le temps. Il y a encore des petites anecdotes. Tu disais qu'il y avait quand même des points que tu soulevais, outre ce phénomène du parcours exemplaire. Tu es quand même le seul à avoir un parcours comme ça. Tu en as conscience quand même.
Ben, j'en ai plus conscience maintenant,
oui.
Mais j'ai pris beaucoup plus de recul sur ce métier depuis que j'étais à l'hôpital, parce que j'ai eu le temps pendant toutes ces longues nuits, pendant 2 ans pratiquement, de réfléchir, car je pensais que j'allais pas revenir, parce que le pronostic vital avait été engagé 2 fois.
Mm-hmm.
Mais voilà, mais dans le livre également, je parle de Michel Arnaud. Michel Arnaud est une femme très importante, qui était chanteuse, un peu un télo, à l'époque de Catherine Sauvage, juste avant l'époque Barbara. Et elle était très influente. C'est elle qui a découvert Jean-Christophe Averti. Elle faisait Les Raisins Verts, une grande émission de télé. Elle me voit prendre l'antenne et meubler dans un truc improbable depuis le Bourget, où je devais commenter l'arrivée d'un avion. Ça s'appelait Tête de bois en plein ciel avec Albert Esner. Ils avaient emmené Dalida, Adamo, toutes les stars, Johnny, Claude François, à Marseille. Et moi, je commentais l'arrivée, le retour de l'avion.
Oui.
Et puis j'ai commenté. Là, on fait signe de continuer. J'ai meublé pendant 7 ou 8 minutes. Puis finalement, on me dit, stop, tu rends l'antenne. En fait, l'avion s'était posé un quart d'heure avant. Car le vent avait tourné. Ils avaient changé la piste. Et il y a une dame qui s'appelle Michel Arnaud qui me convoque.
Oui.
Elle me dit, voilà, je suis productrice, je la connaissais, bien sûr. Elle me dit, je vais faire un essai avec un jeune pour une émission sur le Tilt Magazine. Bon, vous faites un peu province, mais ça peut s'arranger.
Vous faites un peu province, ouais. On t'a dit ça?
Elle m'a dit pire que ça.
Oui.
Donc j'ai ramé.
Ça veut dire quoi, elle t'a dit pire que ça, dis-moi?
Elle me dit, bon, vous faites, quand vous allez présenter Hugo Frey, changez le ton, c'est pas Bordeaux a battu Saint-Etienne, c'est Hugo Frey. Donc, elle m'a changé mon look, elle m'a amené chez Ronoma avec un costume vert, cravate rose et une cravate tricolore.
Très Claude François.
Oui. Et j'ai débuté avec elle, elle m'a engueulé souvent, elle me disait des choses effrayantes, mais elle m'a présenté tout le monde. Elle a présenté Paul Naref, elle avait Gainsbourg qui était encore peintre comme pianiste au Villard-la-Souris.
Ouais.
Puis un jour, elle dit à Serge qui gagnait sa vie en l'accompagnant la nuit, « Dites à Serge, il paraît que vous faites des chansons. » Alors lui, il bredouille 2-3 trucs, il dit « Oui, ben, amenez-moi une cassette. »
Oui.
Il amène une cassette, il y avait la javanaise et le poinçonneur des lilas.
Juste ça.
Elle a dit « Vous arrêtez, mon pianiste, et essaie de t'occuper de lui. » Elle m'a présenté tout le monde.
Oui.
Et quand je l'ai rencontré, elle m'a dit « Vous savez, Drucker, dans ce métier qui est un métier où tout le monde dit du mal de tout le monde, vous allez entendre beaucoup de ragots. Alors si vous entendez dire que j'ai couché avec Mitterrand, c'est vrai, je suis sa maîtresse. » Elle m'a fait découvrir le monde politique.
Oui.
Et pendant des années, deux ans, au deuxième rang du Miller Larsouge, qui était le cabaret où elle était, il y avait au premier rang Mitterrand et son copain André Rousselet qui va créer Canal+ des
Plus
années plus tard.
Oui, bien sûr.
Donc elle m'a présenté tout le monde. C'est là où j'ai connu le monde politique.
Mmh, alors c'est intéressant. T'as rencontré.
Elle me disait sachez qui a couché avec qui couche avec qui couchera avec qui. Ça peut être utile.
Qui couchera donc il fallait que tu anticipes
oui,
déjà.
Anticiper déjà.
Voilà, oui, voilà. C'est un vieux renard des surfaces, Michel Drucker. Juste, il y a une question. Quelle est la personne que tu aurais aimé recevoir, mais qui n'est jamais venue? T'as déjà réfléchi à ça?
Ben, j'aurais bien voulu recevoir le pape de l'époque.
Mm-hmm.
Mais bon, tourner au Vatican, c'était compliqué.
Ouais.
Non, j'aurais bien voulu recevoir Mandela, à l'époque où je faisais des politiques.
Ouais.
Et Jacques Lang aurait pu me pistonner, mais Mandela était déjà, d'abord en Afrique du Sud, mm-hmm. était déjà très malade.
D'accord.
Sinon, j'ai reçu. Si, la reine d'Angleterre. C'est pour ce qui est. La reine d'Angleterre, ça.
Oui.
Si j'avais connu Berne avant, j'aurais demandé de me pistonner.
Oui.
La reine d'Angleterre. Oui. Beaucoup d'humour, la reine d'Angleterre.
Ah oui, oui. Et puis, alors, quand on parlait d'autodérision, quand même, elle est apparue dans des pubs, dans des clips.
Elle a sauté en parachute.
Oui.
À l'époque de Daniel Craig.
Mm-hmm.
C'était un trucage. Non, c'est. Mais sinon, je sais pas à me plaindre, j'ai reçu vraiment beaucoup de gens.
D'accord.
Beaucoup, beaucoup.
Une question, puisque tu parles de ça, les personnes que tu aimes le moins recevoir, les comédiens, les chanteurs, les journalistes, les sportifs, les politiques, le moins recevoir, parce que tout le monde parle de lui, tu leur fais parler admirablement d'eux, il y en a qui sont quand même un petit peu auto-centrés, quand même beaucoup, non?
Beaucoup, alors le melon. Il y a le passage melon. Je le dis, il faut lutter pour... pas prendre le melon quand ça commence à marcher. Mmh. Moi, j'étais trop anxieux, puis j'avais des parents. Ma mère me disait, quand je faisais Champs-Élysées, tu fais quoi dans la semaine? Tu travailles que le samedi.
Oui.
Et quand j'avais mon père au téléphone, qui était un petit médecin de campagne, qui faisait encore des accouchements dans les fermes, parce qu'à l'époque, dans les années 50, on n'accouchait pas à la maternité, car il fallait pas laisser longtemps le troupeau de vaches. Et quand il m'appelait, ça va? Je dis, papa, je suis fatigué. Ah, t'es fatigué? Rappelle-moi ton âge, t'as 38 ans. T'es fatigué. Tu sais ce que j'ai fait cette semaine? Je me suis levé toutes les nuits de garde, j'ai fait deux accouchements.
Papa était médecin pour les
auditeurs. Médecin de campagne,
oui.
Etc. Et t'es fatigué? Ah oui. Tu sais combien elle gagne une infirmière? J'ai plus jamais dit à mon père j'étais fatigué et je n'ai plus jamais dit combien je gagnais.
Oui.
Parce qu'un jour, Télé 7 jours à l'époque m'avait dit, vous gagnez combien? Moi j'avais joué la transparence, comme aux États-Unis.
Mm-hmm.
À l'époque, j'étais transféré, si j'ose dire, à RTL.
Mm-hmm.
Et tu sais bien que les radios périphériques de l'époque payaient plus que la télé publique.
Bien sûr.
Donc à l'époque, ça devait être l'équivalent de 2 500 euros,
ouais,
par mois. Ce qui était beaucoup.
Évidemment, par rapport à une infirmière dont parlait ton papa.
Et aujourd'hui, c'est 10 fois plus.
Bien sûr.
Quand on fait la radio.
Mm-hmm.
Et je lui dis ça. À Télé 7 jours, ils ont reçu des tonnes de courriers en disant... Que Drucker soit bien payé, il le mérite sans doute, mais pourquoi il s'en vante? Et là, mon père m'a appelé et me dit, dis donc, pourquoi tu dis combien tu gagnes? Et tu sais combien gagne une infirmière?
Bien sûr.
Donc depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais dit ce que je gagnais parce que c'est mal vu en France. Moi, je pensais que c'était la transparence. Et la franchise,
ouais.
Il faut pas.
Ouais, ouais. Alors, la période melon, on peut en reparler, parce que je te demandais ce que tu aimais le moins, et tu m'as pas répondu...
Le moins, les artistes qui arrivent en retard,
ouais.
Et qu'on court...
Tout autour,
oui. Et qui ont la mémoire courte.
Ouais.
Qui oublient.
D'accord. Les politiciens, c'est délicat quand tu vois que, par exemple...
Les politiciens me fascinent tous, parce que ce qu'ils font... Pff,
non, mais le phénomène de Cyril Hanouna, ça grouille un petit peu en disant...
Oui, il va se présenter.
Non, mais c'est la question que je te pose. Est-ce que Cyril, que tu connais et que je connais,
très,
évidemment,
très bien.
Parce que c'est un ami de toute manière, qui mène très très bien sa barque, ouais. Est-ce qu'il est crédible, tout comme un Coluche de l'époque?
J'ai vu qu'il était... crédité de 10%.
Oui, minimum.
Minimum, c'était le score de Coluche.
On est d'accord. Toi, tu vois comment l'arrivée de Cyril dans le PAF et dans la politique?
Moi, je pense qu'il ne va pas y aller.
D'accord.
Je pense qu'il ne va pas y aller parce qu'il n'a que des coups à prendre.
Eh bien, moi, je pense qu'il va y aller.
Tu crois qu'il va y aller?
Ouais. J'aime bien débattre de ça avec toi, parce que justement, c'est l'univers des possibles. Il est dans la proximité avec ce dont tu as parlé, comme ton papa disait, les infirmières, etc. Et au moins, toutes ces personnes-là se reconnaissent en Cyril. Après, que ça marche ou ça marche pas, pour nous, on n'a jamais fait de politique, ni toi ni moi. Tu les as interviewés. Tu les as tous reçus. Mais moi, je pense qu'il va y aller, justement, pour mettre un coup de pied dans tout
moi,
ça.
Moi, je me souviens que Coluche,
oui,
était venu dîner chez moi un soir. Dans cette période-là, il avait un de ses copains qui avait été flingué, il était menacé, ses enfants étaient menacés avec des messages terrifiants sur son répondeur. C'est quand même, la politique, c'est un métier dangereux.
Ah non, mais ça, c'est clair.
C'est autre chose.
Oui, c'est totalement autre chose. Mais il y a quand même le côté sportif, c'est dangereux. Le côté aussi télévision, il est dangereux. Je veux dire, toi, tu es passé entre les gouttes, mais il y en a beaucoup qui sont restés sur le carreau quand même.
J'en parle dans le livre.
Oui.
Moi, ce qui m'a sauvé, c'est d'avoir été viré très tôt. J'ai été viré en mai 68. Et en mai 68, j'avais 26 ans, j'étais déjà un petit peu connu, je faisais des émissions qui marchaient bien. Et là, j'ai compris que notre célébrité, c'est un miroir, mais c'est du sable qui vous glisse entre les doigts.
C'est intéressant.
Je crois que c'est de l'étariat.
Ouais. Ce qui t'a sauvé, c'est d'avoir été viré, c'est-à-dire que ça t'a remis la tête sur les épaules dès cette jeunesse. Ouais.
Et puis ce qui m'a sauvé, c'est mes parents. Parce que mon père, quand j'ai fait grève en 68, on se prenait tous pour Che Guevara, on défilait. Moi, je défilais avec Segui,
Daniel Le Rouge.
Krasuki.
Oui. Daniel Cohn-Bendit ou pas?
Oui, avec Daniel Le Rouge et tous ces
copains. Oui, c'est ça.
Et on défilait à la Bastille en disant libérez l'ORTF. Je sais que mon père, qui était fou de rage, il me téléphone, il me dit dis donc. Qu'est-ce que tu allais foutre là-bas? Pourquoi tu... Je dis, papa, je voulais pas être un jaune, je voulais pas.
Je voulais pas être un jaune,
ne pas trahir les grévistes.
Oui.
Tu sais, quand tu fais ton rêve, t'étais un jaune.
D'accord, j'avais pas la référence.
Pas un gilet jaune, mais t'étais.
Oui, c'est pour ça que j'avais pas la référence.
T'étais le gars qui brise la grève ou qui se désolarise de ses copains.
Oui.
Et mon père avait beaucoup d'ironie, mais je savais pas que Sheila était très politisé. Je savais pas que Claude François était un militant. Je savais pas que Johnny était à l'extrême gauche.
Oui.
Donc il s'est foutu de ma gueule.
Oui.
Et puis je suis resté sur le carreau 7-8 mois. Mmh. Et grâce à Michel Arnaud, qui non seulement avait été la maîtresse de Mitterrand, mais elle était la voisine de Pompidou. Et c'est elle qui m'a pistonné. Et à l'Élysée, on a dit bon, Drucker. Le journaliste est viré, mais pas l'animateur de variété.
Ça, c'est merveilleux.
Et j'ai continué.
C'est merveilleux. Et tu continues. On continue à parler de toi, juste parce qu'il y a Famille, je vous aime, aussi, dans ton actualité.
J'en parle de la famille dans le livre. Tu la connais, ma famille.
Mais évidemment, je la connais très, très bien. Et puis alors, en plus, tous les membres de ta famille, et j'en suis très, très fier. Le Michel Drucker retourne en prime time à 83 balais. Excuse-moi, c'est quand même gonflé.
Ça sera avant l'été. Je sais pas quelle est la date exacte.
Avant l'été, le grand Michel arrive.
C'est-à-dire que c'est un secret pour personne, c'est que j'ai un rapport aussi fort avec les parents des artistes, leur grand-mère, leur père, leurs frères, leurs cousins, que les artistes eux-mêmes.
Oui.
Par exemple, hier, je voulais avoir des nouvelles de Pascal Obispo, j'ai appelé Nicole, sa mère.
Oui.
Comment va Pascal?
Nicole, sa mère, et non pas Nicole Sonneville.
Non.
Oui, j'ai bien compris. Et comment va-t-il?
Quand j'appelle la maman de Patrick Bruel, quand il n'est pas là, je crois que sa maison avait brûlé à Los Angeles, j'ai pris des nouvelles auprès de sa mère.
Oui.
Les parents de Canmera, je les connaissais très bien, ce sont des gens que je connais bien. Mm-hmm. Et donc, une de mes collaboratrices, qui s'appelle Florence Fessa, m'a dit, Michel, pourquoi vous ne feriez pas un jour une émission où justement, vous êtes le seul à pouvoir le faire, où les artistes amèneraient leur famille sur le plateau.
Oui.
J'ai proposé ça à la direction de France 2, qui ont dit, oui, c'est intéressant. Mm-hmm. Et j'ai appelé ça Famille, je vous aime.
Mm-hmm.
Et ils étaient 15. Le parrain, c'est Gad Elmaleh, qui est venu avec son papa et sa maman.
Oui.
Michel Leeb est venu avec sa femme et ses 3 enfants.
Oui.
Les Chédides sont venus tous ensemble.
Il n'y a que toi qui peux faire ça. Il n'y a que toi aujourd'hui.
Parce que je connais très très bien les animateurs. Mmh. Souvent, je les appelle à l'étranger.
Mmh.
Mais toi, je connaissais les parents de Céline très bien, les parents de... Attends, je suis allé en vacances avec les parents de Rulio, mais je les connais vraiment très très bien. Et je dînais avec eux souvent sans avoir rien à demander à leurs enfants, je les appelle pour déjeuner.
Et ça, c'est quand même très très agréable, parce que toi, tu n'oublies pas d'où tu viens, et tu n'oublies pas qui tu es, et qui plus est, alors voilà, je trouve ça fou, donc tu te rends compte que pour nous, tu es un moteur, et tu te dis, tiens, à un moment donné, cette envie dont on parlait, elle est encore là, parce que tu te dis, eh ben je vais encore aller, pourquoi pas, raconter, si j'ai la force et l'envie, sur scène, t'as envie,
de
revenir sur scène, parce que cette proximité, il n'y a que toi qui l'a, moi je t'ai vu sur scène moult fois, et ce phénomène, t'es sans filtre avec eux. Tu leur dis, ah bah oui, mais je vous raconte, ah oui, bah oui, Johnny, ah bah oui, Claude François, ah oui, Serge Gainsbourg, et t'as encore cette envie, et cette niaque, il te faut des objectifs, quoi.
Mon voisin en Provence, c'était Charles Aznavour.
Oui.
Qui aurait pu vivre encore un peu, il aurait pu chanter jusqu'à 100 ans. Il voulait que je présente son émission du centenaire.
Oui.
Alors, je dis, Charles, oui, Faites-moi une proposition pour le jour du centenaire, un grand gala. Bah, j'ai dit, la Tour Eiffel me dit non, c'est trop attendu.
Oui.
Le Stade de France, trop attendu.
Mm-hmm.
Alors, j'ai dit, mais faites à la Concorde, on peut mettre un million de gens.
Oui.
Il me dit, oui, d'accord, mais où vous mettez le podium?
Oui.
Il m'a dit, bah, mettez-le pratiquement sur la ligne d'arrivée du Tour de France, parce que j'aurai l'Arc de Triomphe derrière moi.
Oui. Non, mais il est fantastique.
Et c'est lui qui me disait, Michel...
Ouais.
Ayez toujours un projet.
Mm-hmm.
C'est les projets qui font vivre, qui donnent envie.
Donc ce projet de revenir sur scène, c'est de raconter un petit peu toutes tes anecdotes que tu as vécues avec toutes ces personnes.
Peut-être ce livre-là, je le raconterai sur scène.
Ouais.
J'ai déjà un titre provisoire qui pourrait être « J'ai oublié de vous dire ».
Ah ouais. Eh ben écoute, on va continuer à se parler, bien évidemment.
Et puis
évidemment.
Je continue la télé.
Mais oui, bah oui, bah je sais bien que tu continues la télé et que tu n'arrêtes toujours pas.
Voilà, dans les jours qui viennent,
oui.
Je fais un Vivement Dimanche avec Foucault, avec
oui.
Jean-Pierre, que j'aime
oui.
beaucoup,
oui.
avec Balavoine, avec Lavoine.
Avec Balavoine non, aussi, non, Balavoine. Ça c'est quand même merveilleux. Non,
Balavoine, je lui ai rendu hommage à Daniel cette année.
Mais oui,
avec Marc Lavoine, avec Adriana Carambeu,
oui.
Il y aura Laurent Gérard, il y aura...
Je sais même qu'il y a Evelyne Delia aussi.
Oui, je fais une émission avec Evelyne Delia.
Je sais.
Et avec Denise Fabre.
Eh ben écoute, on est vraiment ravis. Pour l'heure, il y en a une qui a marqué également... notre vie et la tienne, c'est elle. Céline Dion sur Nostalgie.
Il pense à moi, je le vois, je le sens, je le sais.
Je le sens, je le sais.
Et son sourire ne ment pas quand il vient me chercher.
Quand il vient me chercher.
Il aime bien me parler des choses qu'il a vues.
Jean-Luc Reichmann vous emmène. En week-end.
On se tutoie sur Nostalgie.
Céline Dion sur Nostalgie. Je te voyais très méditant. C'est fort Céline Dion quand même. L'histoire de la petite Céline Dion qui arrive chez Michel Drucker.
Je connais tout de la famille. Je suis allé à Charlemagne.
Oui.
Dans la petite maison où elle a grandi.
Mmh.
Je lui dis dans le livre, ce qui était fascinant, ils étaient 14 dans la famille.
Oui.
Et ils avaient du mal à joindre les deux bouts.
Bien sûr.
Et dans la petite maison de Charlemagne, moi je l'ai vécu, elle me l'a fait visiter.
Oui.
Le soir, ils enlevaient tous les tiroirs des commodes, ils vidaient les tiroirs, ils mettaient des oreillers, ça servait de lit pour les nourrissons.
Ouais.
Ils dormaient dans les tiroirs.
Tu t'imagines aujourd'hui, t'as envie de... Tu l'as de temps en temps, Céline, au téléphone?
J'ai de ses nouvelles par son attaché de presse.
Ouais, comment elle va? T'as envie de lui parler?
Écoute,
t'as envie
depuis,
de lui dire
depuis la Tour Eiffel, depuis les Jeux Olympiques, je me demande si elle n'est pas capable de revenir.
Oui.
Je crois qu'elle va faire un album.
Elle a envoyé un signal fantastique d'espoir pour tout le monde. Elle s'est faite filmer dans des conditions de dingue. Vraiment nature, nude.
Elle avait une autonomie de 4 minutes. Et la chanson « L'hymne à l'amour » durait 3 minutes 30.
Oui.
Elle n'aurait pas pu chanter...
Ça veut dire quoi, elle avait une autonomie de 4 minutes?
Physiquement.
Oui.
Et vocalement.
Oui.
C'était beaucoup, beaucoup, beaucoup entraîné. Et puis c'était costaud cette chanson.
Elle a envoyé un signal d'espoir fantastique à plein de personnes aussi qui sont en danger.
Elle a une maladie étrange et incurable de l'homme raide, c'est-à-dire qu'elle a des douleurs aux jambes et qui peuvent arriver comme ça subitement.
D'accord. La maladie de l'homme raide.
On se tutoie sur Nostalgie.
Avec Jean-Luc Reichmann. Tous les vendredis soirs, 19h-20h. Et à tout moment en podcast sur l'appli Nostalgie.